Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Depuis plusieurs décennies, l'Union européenne cherche à conforter le modèle social européen dans les 27 États membres. Et c'est-à-dire qu'on peut parler aujourd'hui d'une Europe sociale, Daniel.
Ah, Jean-François, si vous entendez espace social homogène et intégré, la réponse est clairement non. Au sein de l'UE, les contrastes sont marqués. Ainsi, les prestations sociales annuelles par habitant s'élèvent à plus de 10 000 euros en France et à 2 500 en Roumanie. Les risques de pauvreté après transferts sociaux touchent entre 10 à 13% de la population française, mais plus de 22 à 25% de la population roumaine. D'un pays à l'autre, les disparités sont fortes en termes d'égalité femmes-hommes pour les salaires et les responsabilités publiques, de performance des systèmes de santé et d'espérance de vie, sans oublier de niveau de chômage. Comme l'ont souligné les réponses des pays à la crise du Covid dans les premiers mois de la pandémie, l'Europe sociale est une juxtaposition de situations nationales, fruit de politiques principalement nationales. On peut donc dire, Jean-François, pour le moins, que l'Europe sociale est inachevée.
Pourtant, au début des années 2000, avec le traité d'Amsterdam, l'Union affiche une ambition sociale forte, devant favoriser une harmonisation sociale européenne.
En effet, moderniser le modèle social européen en investissant dans les ressources humaines et en créant un État social actif, tel était l'objectif social contenu dans la stratégie de Lisbonne, fruit de la dynamique créée par le traité d'Amsterdam auquel vous avez fait allusion. Un tel objectif aurait dû aider à une harmonisation sociale par le haut, mais trois obstacles ont conjugué leurs effets puissants. Le premier obstacle est juridique. Si l'Union pour les aspects du social prise en compte par les traités, possède une compétence d'appui qui lui permet de réglementer, sa capacité législative se trouve bridée pour certains de ses aspects. Ainsi, s'agissant d'exclusion sociale ou de modernisation des systèmes de protection sociale, l'UE ne peut pas proposer de directives qui devraient être transposées dans le droit des États. Pour d'autres domaines, comme la protection sociale des travailleurs, il faut l'unanimité au Conseil. Ces limitations ont constitué un frein efficace, utilisé volontiers par certains États membres, songeons au Royaume-Uni du temps où il en faisait partie. Ainsi, l'allongement de la durée du congé obligatoire de maternité à 18 semaines, qui est dans les tuyaux depuis 2008, n'est toujours pas effectif.
Alors, ce frein juridique semble effectivement assez puissant, mais est-ce qu'il suffit à lui seul pour bloquer la construction d'un espace social européen et homogène?
Alors non, bien sûr, il y a un deuxième obstacle politique, celui-ci, qui a joué durant une décennie pour mettre en panne le social européen. 2004-2014, c'est ce que certains appellent le trou noir du social, durant lequel peu de dispositions nouvelles et même des échecs sont enregistrés. Alors le plus spectaculaire, c'est l'incapacité de réviser la directive de 2003 sur la durée du travail, 48 heures hebdomadaires, que les multiples et extensives exceptions ont au fil des temps quelque peu vidé de sa substance. Alors pour expliquer cette panne, Jean-François, trois facteurs principaux sont avancés. Le premier, c'est la poussée libérale, la poussée anglo-saxonne, largement relayée à Bruxelles par la commission Barroso. Les principales idées, le marché comme régulateur suprême, l'activité économique comme facteur déterminant du niveau de protection sociale, un nouveau système d'organisation du marché du travail censé combiner la flexibilité pour les entreprises et la sécurité pour les salariés, vous savez, c'est la fameuse flexi-sécurité que les États membres sont invités par la Commission à appliquer en coordonnant leur politique. Et l'on est passé ainsi d'un régime de hard law, de droit dur, avec normes contraignantes, à celui de soft law, de droit souple, avec des règles non contraignantes. Le deuxième facteur, c'est le défi social du grand élargissement, vous savez, en deux temps, 2004 et 2007, sous la forme d'une double crainte. Crainte dans les anciens États membres du dumping social, de la concurrence salariale des pays entrants, crainte qui s'exprimera entre autres en France lors du référendum en 2005, vous vous souvenez, le plombier polonais, et par la suite évidemment qui s'exprimera sur le dossier épineux des travailleurs détachés. Dans les nouveaux États membres, la crainte, c'est de perdre le seul avantage comparatif par rapport à l'Ouest que représente leur main-d'œuvre, d'où les fortes réticences face à la réglementation européenne. Et puis il y a un troisième facteur à ne pas oublier, la crise de 2008 et ses effets sociaux, le chômage massif, notamment des jeunes, la pauvreté qui a entraîné un délitement des sociétés avec la fameuse opposition insider, les intégrés, outsiders, ceux qui l'en sont un peu moins, et engendré par la crise des finances publiques, évidemment, la réduction des dépenses sociales de l'État social.
Alors là, c'est un frein politique, mais le frein politique est forcément lié à la conjoncture. Alors existe-t-il des obstacles plus structurels, plus permanents ?
Il en existe en effet qui tiennent à deux grandes fractures au sein de l'Union. D'une part, le fossé économique et social entre Est et Ouest, qui malgré un certain rattrapage à l'Est, continue à nourrir une émigration de l'Est au bénéfice des États membres de l'Ouest et qui contribue à creuser la crise démographique très sévère dans des pays par ailleurs réfractaires à la politique d'accueil immigratoire de l'Union. D'où la montée du populisme et la remise en cause des valeurs de l'Union dans certains de ces pays, jusqu'à l'illibéralisme hongrois. D'autre part, il y a la divergence économique entre le Nord et le Sud. Au Nord, les pays scandinaves germaniques, favorables à une Europe plus libérale sur le plan économique, contributeurs nets au budget européen, attachés à la rigueur budgétaire, ce sont les fameux pays fourmis. Au sud, les pays méditerranéens caractérisés par un certain laxisme budgétaire et des performances économiques et sociales bien moindres, ce sont les pays dits cigales. Alors, ces freins ne sont pourtant pas rédhibitoires pour le social européen et nous verrons dans la chronique prochaine que l'ambition sociale de l'UE depuis le mi-temps des années 2006 est retrouvée.